Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle, l'affaire Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans que l'on retrouve morte un matin de juillet 1996 dans sa chambre d'une auberge de jeunesse de Plaine-Fougère, en Bretagne. Elle a été violée et son agresseur a laissé une trace de sperme. On a donc son ADN. Il va falloir 5 ans pour arrêter Francisco Arce Montes, un serial violeur qui a agressé des adolescentes dans le monde entier. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une enquête à la gloire de la justice française. Cette histoire commence par une scène d'horreur. D'horreur. Le matin du 18 juillet 1996, dans une auberge de jeunesse de Bretagne, à Plaine-Fougère. Dans la chambre numéro 4, où dorment 5 Anglaises, Anne, Camélia, Mélissa, Jenny et Caroline. Dans la chambre, les filles se réveillent. Mais Caroline dort encore, alors elle la secoue. « Caroline, allez debout! Arrête de pioncer !» Elle croit que c'est une blague. Mais Caroline a les lèvres bleues. Et surtout, elle ne respire plus. Alors elle court chercher Elisabeth, la directrice, qui tente de la mettre en position latérale de sécurité. Elle ouvre la fenêtre et les volets en grand pour faire rentrer de l'air. Elle fait ce qu'elle peut. Mais ça ne sert à rien. Caroline Dickinson, 13 ans, est morte. Et à ce moment-là, tout le monde remarque cette tache de sang qu'elle a entre les cuisses. Les parents de Caroline habitent à Lauston, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. John Dickinson, le père, apprend la nouvelle à son travail pendant sa pause déjeuner. C'est son patron qui vient le voir. « John, tu peux me suivre, s'il te plaît? Il faut que je te parle. »« Ouais, j'arrive. Je te suis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu les larmes aux yeux? Tout est OK ?»« John, attends que nous soyons à l'écart. Ce que je dois te dire est très sérieux. » Et il l'emmène dans son bureau où l'attendent deux policiers. « Monsieur Dickinson ?» C'est au sujet de Caroline, votre fille. Elle est décédée. Dans des circonstances, dirions-nous, troubles. Les policiers n'ont pas beaucoup d'informations. Le père est laminé. C'était la première fois que Caroline partait en vacances toute seule, comme une grande. Et en plus, c'était la fin de cette colonie. Elle devait rentrer dans quelques jours. Le père et la mère sont divorcés, ils prennent tout de suite la direction de la Bretagne. À Plaine-Fougère, les gendarmes de la section de recherche de Rennes viennent d'arriver avec un médecin légiste. Le corps de l'adolescente est encore tiède. Le docteur pense que la mort remonte à 23 heures, grand maximum. Et il est clair qu'elle a été violée. Son bas de pyjama est roulé jusqu'au bas de ses jambes et il y a une tache de sang sur le matelas et aussi une tache visqueuse, probablement du sperme. Et il y en a aussi sur le bas de pyjama de Caroline. Et ça, pour cette enquête qui commence, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura l'ADN du tueur. En 1996, l'ADN c'est tout nouveau, mais là, dans du sperme, on aura forcément de l'ADN. De quoi Caroline est-elle morte ? Il va falloir attendre l'autopsie, étouffée sans doute, mais on saura à l'autopsie. En attendant, les 40 adolescents britanniques qui participaient à ce séjour de vacances sont rassemblés dans le réfectoire et ils sont interrogés un par un. En commençant par les garçons, mais ils ne sont que 5, et la directrice, et les 5 animateurs, et le chauffeur qui les accompagne, et les 6 touristes qui étaient de passage à l'auberge la nuit dernière, et bien sûr, les 4 gamines qui étaient dans la chambre avec Caroline. Il faut que je vous explique, à l'auberge de jeunesse de Plaine-Fougère, ce sont des chambres de 4, mais Caroline voulait rester avec ses copines, alors on a rajouté un matelas par terre, elle était donc couchée entre 2 lits superposés, au niveau du sol. Est-ce que les copines ont entendu quelque chose ? Oui ! 2 d'entre elles se sont réveillées dans la nuit. Elles ont entendu Caroline gémir et se débattre, mais elles ont cru qu'elle faisait un cauchemar. On n'a pas compris. On n'a pas compris que c'était grave. Et elles se sont rendormies. Caroline a donc été violée et étouffée dans une chambre de 12 mètres carrés où elles étaient 5. Ça paraît incroyable. Dans cette chambre, les gendarmes ne relèvent aucune empreinte digitale. En revanche, sous les draps, ils trouvent un morceau de coton de 9 cm sur 12. A priori, c'est avec ça qu'elle a été étouffée. Dans la chambre d'à côté, la numéro 5, une gamine livre un témoignage très intéressant. Elle s'appelle Amy White. C'était vers 1h30, enfin je crois. J'avais l'œil qui me piquait, les garçons m'avaient mis de la mousse à raser dans l'œil. Je me suis levé pour aller me rincer l'œil, et là j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai cru que c'était Miss Barker, la directrice, qui faisait sa tournée. J'ai entrouvert la porte tout doucement, et là il y avait un monsieur. Je le connaissais pas. Il avait la main posée sur la poignée de la porte. J'ai eu peur. J'ai refermé la porte sans bruit, et j'ai attendu un quart d'heure avant d'aller au lavabo. Et là, je l'ai revu. Le même monsieur, il descendait l'escalier.
Et lui, il t'a vu ?
Oui, il m'a fait une grimace. Il a parlé aussi, mais je sais plus ce qu'il a dit, j'ai pas bien compris. Je sais pas si c'était en anglais, peut-être en espagnol, je sais pas.
L'une des monitrices, Jackie, elle aussi, a vu un homme. C'était vers 5h du matin, elle a entendu des pas sur le gravier. Elle a regardé par la fenêtre dans la cour et elle a vu un homme en jean et en blouson. Il a tourné à gauche et il a disparu. Et elle a entendu le bruit d'une camionnette. C'était un bruit de casserole. Je jurerais que c'était une vieille estafette.
Le juge d'instruction Gérard Zog décide de rendre public les résultats de l'autopsie. Caroline Dickinson est morte asphyxiée, étouffée. Ça a duré au moins 2 minutes. Et comme on s'en doutait, elle a été violée. Son hymen est déchiré. Le scénario le plus probable, c'est que le type l'a violée avec les doigts ou avec un objet et que pendant ce temps-là, il se masturbait, d'où les taches sur le matelas et sur le bas de pyjama. Évidemment, dès le lendemain, les journalistes débarquent. Et les Français, et les Anglais. Double peine pour Plaine Fougère, 1800 habitants, qui est envahie par les reporters de tout poil. Une affaire comme ça, en pleine torpeur estivale, ça attire forcément les foules. Ce que ne savent pas les journalistes, c'est qu'ils vont passer un bon bout de temps dans ce charmant coin de Bretagne. En 1996, l'ADN, c'est vraiment tout nouveau. Et il n'existe pas encore de fichiers où sont recensés les profils génétiques de tous les délinquants, notamment sexuels. Donc dans cette affaire, on a l'ADN du tueur, mais rien pour le comparer. Sauf à se lancer dans du cas par cas. Et c'est ce qui va se passer dans cette affaire exceptionnelle. On commence par relever l'ADN de tous les hommes qui étaient à l'auberge ce soir-là. Un Italien de Turin, un Suisse allemand, négatif. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait aussi à l'auberge un motard d'Amiens qui est parti à l'aube. C'est louche. On l'aurait vu parler avec les petites Anglaises à l'entrée des douches la veille du meurtre. Et là encore, test ADN, c'est pas lui. Mais lui aussi, il a vu un homme dans le couloir. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte cette nuit-là. J'ai demandé qui c'était, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai fermé la porte à clé. Et puis, 2 jours après le meurtre, les gendarmes tombent sur un gars qui fait du stop au bord d'une route, pas très loin de Plaine Fougère. Un gars louche, un tatoué, avec une tête de marginal. On lui demande son emploi du temps des 2 derniers jours, et il dit qu'en ce moment, il est logé dans un presbytère à Pont-Orson, et que les jours précédents, il a fait du stop, entre l'Orne et le Morbihan. Les gendarmes lui demandent ses papiers, il s'appelle Patrice Padé, il a 39 ans. Il passe son nom au fichier, et là... Bingo! Ce Patrice Padé a un casier judiciaire pour viol et agression sexuelle. Les gendarmes se disent, c'est notre homme! Ils montrent sa photo aux témoins, ils le reconnaissent. C'est l'homme qui traînait autour de l'auberge. Immédiatement placé en garde à vue, au début, Patrice Padé nie.
Ah ben moi j'ai rien à voir avec toute cette histoire.
Mais c'est long, une garde à vue. Et après des heures d'interrogatoire, il avoue.
C'est lui qui est entré dans l'auberge, c'est lui qui a violé Caroline Dickinson, c'est lui qui l'a étranglée. Et l'enquête est terminée. En 4 jours, Patrice Padé est inculpé et envoyé en prison. Et on lui a fait un prélèvement ADN, bien sûr, qu'on a envoyé au labo de Bordeaux. On attend juste les résultats et l'enquête sera bouclée. Joli travail! Le juge Zog donne une conférence de presse. Le nom de Patrice Padé est déjà dans les journaux. Et voilà que depuis sa prison, Patrice Padé écrit au juge « Non, ça n'est pas moi qui ai tué Caroline Dickinson, on m'a forcé à avouer. » Forcé. On va voir. Eh bien, on voit, car l'ADN est négatif. Et on refait le test plusieurs fois, vous vous en doutez. Négatif. Ça n'est pas lui, ça n'est pas Patrice Padé qui a tué Caroline. Mais sans l'ADN, allez savoir s'il n'aurait pas été condamné.
Je suis passé à Pleine Fougère 2-3 jours avant. J'ai une petite radio dans mon sac à dos. Et viol et meurtre d'une collégienne vagabonde de 13 ans à Pleine Fougère. Là, je sais pas vrai, en plus, Fougère, c'est un tout petit patelin. J'y suis passé, bah, heureusement, j'y suis plus, parce que là, on m'a remis ça sur le dos. C'est ce qui arrivait après, toujours, fin de compte. J'étais mis en garde à vue. Ils m'ont pas fait de cadeau, ils m'ont pas lâché d'une semelle. Hein. Le médecin qui est venu à la gendarmerie, il leur a dit, dans l'état qu'il est, faut le faire hospitaliser. Ils ont dit, non, il est là, il restera là, quoi. Moi, j'en veux. J'en veux la justice à cause de ça. Ça, je dis franchement. Il n'y a pas eu 5 ou 10 minutes de repos, je les ai pas eu. J'ai avoué. Je leur ai dit ce qu'ils ont bien voulu entendre, voilà, c'est ça que je veux dire.
Et pourquoi?
Pourquoi? Mais j'en pouvais plus. Ils m'ont dit, t'as tué ta grand-mère, j'aurais dit oui, mais voilà, terminé, quoi. J'en pouvais plus, j'étais à bout, quoi. La pire journée de ma vie, quoi. J'étais prêt à mettre la tête dans la machine à écrire, les cintres, ils se relayaient. N'importe qui aurait avoué, de toute façon, même le mec le plus costaud qu'il peut y avoir, il aurait craqué, de toute façon, c'est clair. Et je leur en veux. Je leur en veux, moi, ces cintres-là. Ce qu'ils m'ont fait subir, n'importe qui aurait avoué, n'importe qui, de toute façon, c'est clair. Moi, ma vie, depuis ce temps-là, c'est un enfer.
Et au passage, grâce à l'ADN, on a la preuve que quelqu'un peut avouer un crime qu'il n'a pas commis. Ça fait longtemps qu'on s'en doutait, mais là, on en est certain. Et c'est une leçon qu'il faudra retenir. En attendant, l'enquête du juge Zog redémarre à zéro.
Une auberge de jeunesse, par définition, ce n'est pas la Banque de France, et ça fait partie notamment des règles de ce style d'établissement où on peut rentrer et sortir sans grande difficulté. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des adolescentes qui ont entre 13 et 15 ans, qui avaient des journées bien remplies dans le cadre de leurs vacances, qui doivent donc avoir un sommeil profond. Cet individu a peut-être vu ces personnes, mais je pense que ce type d'individu, dans ce genre de circonstances, à partir du moment, si j'ose dire, où il a découvert sa proie, rien ne peut l'arrêter. Une fois que c'est parti, c'est malheureusement parti. Elle dormait vraisemblablement assez profondément. Ça a malheureusement sans doute pas fait trop de bruit, car dès lors que l'individu met la main sur la bouche de sa victime, on ne pense pas que ça fasse de gros bruit.
Et on va s'apercevoir au fil du temps qu'à la même période, il y a eu d'autres agressions très ressemblante, dans d'autres auberges de jeunesse du coin. Par exemple, à Saint-Lunaire, à 50 km de Pleine Fougère. Là aussi, c'était des Anglaises en vacances. Et c'était la nuit de l'assassinat de Caroline. Un homme s'est introduit dans une chambre en pleine nuit. Et là aussi, les copines se sont réveillées. Il y en a une qui a allumé sa lampe de poche et elle a vu un homme brun, avec des cheveux en désordre, la peau bronzée, mal rasée, qui se masturbait sur sa copine Kate en lui mettant la main sur la bouche. Le même scénario. Mais là, elle a crié et l'homme s'est enfui. Et c'est pas tout. Agression similaire à l'auberge de jeunesse de Saint-Ca, le 28 juillet, à l'auberge de jeunesse de Saint-Brieuc, le 11 juillet, à l'auberge de jeunesse de Saint-Malo, dans la nuit du 15, à l'auberge de jeunesse de Beauvoir, le 9 septembre. Et à chaque fois, c'était des jeunes Anglaises. Et ça, ça change tout, ça trace un profil. C'est le profil d'un prédateur qui fantasme sur les jeunes Anglaises et qui sait qu'en général, dans les auberges de jeunesse, on ne ferme pas la porte à clé. Et puis, le temps passe. C'est la rentrée de septembre, les journalistes qui avaient envahi le village de Pleine Fougère sont rentrés chez eux, l'enquête que les gendarmes espéraient résoudre en quelques jours s'installe dans le temps long.
Et c'est là que le père de Caroline, John Dickinson, décide de revenir en Bretagne pour motiver les troupes.
3 mois d'investigation et une enquête au point mort, c'est pour tenter de relancer la machine judiciaire française que le père de Caroline, John Dickinson, est venu lancer un appel solennel devant le palais de justice de Saint-Malo. Je m'adresse à la population bretonne pour lui demander son aide dans la recherche de l'auteur de ce crime affreux. Une information, si minime soit-elle, peut être capitale pour la suite de l'enquête.
John Dickinson a décidé de secouer l'enquête. Il faut dire que le juge Zog n'a pas été très diplomate. Il n'a pas voulu le recevoir. Lui, le père. Eh bien, à partir de maintenant, il va l'avoir dans les pattes, lui et la presse anglaise, toujours volontaire pour casser du français. Le temps passe encore et 8 mois après l'assassinat de Caroline, le père demande des tests génétiques massifs. Il veut que tous les hommes de la région fassent l'objet de prélèvements génétiques. Tous, sans exception. Tous les hommes de la région? Mais c'est beaucoup. Ça va coûter une fortune. Et pour l'instant, le juge Zog ne veut pas en entendre parler. Il le dit à l'avocat de la famille Dickinson. C'est compréhensible hein, que M. Dickinson soit désemparé, que l'auteur du meurtre atroce de sa fille ne soit pas encore trouvé. Mais il vous appartient de lui faire connaître les règles de la procédure pénale française et non de l'assister dans des campagnes de presse. Et c'est un bras de fer qui se joue entre le père et le juge. Et en juin, 11 mois après la mort de Caroline, le père obtient le soutien du Foreign Office, le ministre des Affaires étrangères britannique. Et il écrit au président Chirac. Et maintenant, il réclame qu'on change de juge. Je dois vous dire que je n'ai plus du tout confiance dans le patron de l'enquête. Il faudrait un regard neuf, il faudrait de nouvelles méthodes. Et moi le père, j'avoue que j'admets mal d'être considéré comme un importun. Eh bien, il va obtenir gain de cause, figurez-vous. Le président de la chambre d'accusation de Rennes, le juge Renaud van Ruinbeck, fait savoir que lui aussi est favorable à des tests massifs. Des tests de grande ampleur, de tous les hommes de la région. Et le juge Zog est écarté, et c'est lui, Renaud van Ruinbeck, qui récupère le dossier de l'affaire Dickinson. Avec ce projet complètement fou pour l'époque, une grande première, on va tester tous les hommes du coin. Tous les hommes, entre 15 et 35 ans. Évidemment, les hommes de pleine fougère se posent des questions. On va devoir faire un don de sperme alors? Ah ben non, c'est une prise de sang. Et est-ce qu'on va être fiché après? Tu crois qu'ils vont garder nos échantillons?
Bah en fait, j'ai été convoqué à la gendarmerie et ils ont appelé le médecin rapidement. Ça s'est fait la prise de sang et au bout de 10 minutes, j'étais reparti. Et ils soupçonnaient au départ les jeunes, donc tout le monde y est passé plus ou moins. Moi, j'en connais une vingtaine du coin, donc une bonne partie des jeunes.
Et vous n'y êtes pas opposé, vous trouviez ça normal?
Ben ouais, comme ça au moins ça prouve que c'était pas moi. Mais j'espère qu'ils le trouveront de toute façon, ça, c'est tout le village qui va être soulagé.
Au total, 500 hommes de pleine fougère ont répondu volontairement à l'appel, mais tous les tests sont négatifs. C'est là que le juge Van Ruinbeck décide de faire quelque chose que son prédécesseur, le juge Zog, avait complètement négligé au début de l'enquête. Il fait publier dans la presse le portrait robot du tueur qui est dans le dossier depuis le début.
L'homme est de type européen. Sa corpulence est athlétique. Il a des épaules larges. Il a environ une trentaine d'années. Cheveux mi-longs, aspect négligé, sourcils épais et broussailleux, châtain foncé.
Dans la foulée, le tabloïd britannique The Sun offre carrément une rançon à qui permettra d'identifier le tueur.
Pour les Français, ça a choqué un petit peu. Il semble que ça a choqué. C'est une pratique assez courante en Angleterre. Il y a eu même des cas où des meurtriers, des assassins, des violeurs ont été trouvés par cette méthode. Il y a des pour et des contre.
Et vous comprenez que les enquêteurs puissent être choqués par ce procédé?
La police et le journal The Sun ont le même but de trouver l'assassin de Caroline Dickinson.
Et là, entre le portrait robot publié par la presse et les affichettes du Sun, ça dégringole de tous les côtés. 3000 témoignages qu'il faut vérifier un par un et une fois de plus,
l'enquête se noie. Disons les choses clairement, l'arrivée du juge Van Ruynbeck dans ce dossier a donné un coup de fouet à l'enquête. Le premier juge, le juge Zog, était peut-être un peu léger pour un dossier comme celui-là. Van Ruynbeck, lui, il voit les choses différemment. Il pense à un prédateur itinérant, une sorte de spécialiste des auberges de jeunesse. Il ordonne donc aux gendarmes d'interroger tous les directeurs d'auberges de jeunesse de France, tous, et de lui signaler toutes les affaires qui pourraient être similaires. Et c'est là qu'on lui remonte une affaire qui date de 1994, 2 ans avant le meurtre de Caroline, à La Croix, en Touraine. L'histoire d'un type qui, une nuit, s'introduit dans la chambre d'une jeune Irlandaise. Elle se réveille, il s'enfuit, mais le lendemain, il est arrêté et il l'avoue. On a son nom, Francisco Arce Montes. Et son âge, 46 ans, et sa nationalité, il est espagnol. Mais on n'a pas son ADN qui n'a pas été prélevé à l'époque et comme il n'avait rien fait, eh bien il a été relâché. Francisco Arce Montes, le juge Van Ruynbeck, a la conviction qu'il tient son homme, il faut le retrouver. Et là, il envoie tout de suite des policiers espagnols chez sa mère, dans les Asturies. « J'ai pas vu mon fils depuis très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour lui donner l'argent de l'héritage de son père, et depuis il a vidé son compte en banque, et je l'ai plus vu, hein !» Les policiers espagnols n'ont même pas été capables de trouver une photo de cet Arce Montes. Et surtout, ils ont totalement oublié de dire aux Français que l'oiseau était passé récemment en prison en Espagne pour une affaire de viol. Ah, la coopération européenne, il y a encore du boulot. Et là, pas de bol, le juge Renaud Van Ruynbeck est muté à Paris. Et comme toujours, il part avant que son successeur n'arrive. Il n'y a pas de transmission avec le nouveau juge, Francis de Bon. Le nom d'Arce Montes est dans le dossier. Mais le dossier est tellement gros. Une fois de plus, l'enquête se perd. Et là, heureusement que la presse britannique est là. En 2001, le journal Le Sunday Times publie un point sur l'enquête 5 ans après l'assassinat de Caroline. Et pour la première fois, le Sunday Times publie le nom de Francisco Arce Montes en disant « c'est le suspect numéro 1 ». Et là, il se passe quelque chose d'absolument magique, un coup de pouce du destin dans cette enquête qui en avait bien besoin. À Détroit, aux États-Unis, un policier du service de l'immigration tombe sur l'article. C'est un coup de peau, il est américain, il est en train de lire un journal britannique. Il est à son bureau, il voit le nom de cet Arce Montes et machinalement, il le tape dans son fichier sur son ordinateur. Et là, il hallucine, et nous avec, Francisco Arce Montes est aux États-Unis. Il a la trace sur son ordinateur de son arrivée sur le territoire américain. Mais il y a mieux que ça. Il est en prison aux États-Unis, à Miami. Il a agressé sexuellement une collégienne irlandaise. Et il attend son procès. C'est complètement dingue. Et là, ça va vite. Les Américains ont prélevé son ADN. On compare, c'est Francisco Arce Montes qui a violé et tué Caroline Dickinson en Bretagne il y a 5 ans. C'est sûr. Et pas que. Son casier judiciaire est phénoménal. Arce Montes a violé dans le monde entier, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, au Chili, au Mexique et donc aux États-Unis et en France. C'est un serial violeur international. Évidemment, le zigoto refuse d'être extradé. Il veut d'abord qu'on le juge aux États-Unis pour la tentative de viol pour laquelle il est en prison. Mais la justice américaine lui donne tort et Francisco Arce Montes est livré à la France pour être jugé. Son procès se tient en 2004 devant la cour d'assises de Rennes.
Il n'a pratiquement pas parlé pour sa première journée d'audience. Hier, l'Espagnol Francisco Arce Montes n'a pas regardé les parents de Caroline Dickinson. Arce Montes qui a toutefois reconnu son geste. Écoutez son avocat, Maître Olivier Dersoir. Il répond à François Coulon.
Je crois qu'il comprend, en voyant les photos de la victime, l'horreur de ce qui s'est passé.
Et il se sent responsable ?
Il se sent bien sûr responsable. C'est une personne qui est actuellement sous médicaments, donc qui a des réactions qui sont neutralisées par des psychotropes.
Comment il s'explique son comportement ?
Il ne s'explique pas. Il a des souvenirs, il a plus précisément des flashs de ce qui est arrivé, mais sur une explication rationnelle de ce qui s'est passé, il n'en a pas. Il est très perturbé. C'est une personne qui ne raisonne pas de manière habituelle, qui ne raisonne pas comme tout un chacun, qui présente toute une série de perturbations, on peut même dire, je pense, de pathologies, et qui fait qu'effectivement, il est difficile à appréhender.
Le verdict est sans appel. 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 20 ans. Il a fait appel ? Pour rien. Sa peine est confirmée par la cour d'assises de Saint-Brieuc. Et si on cumule toutes ces condamnations, en France et à l'étranger, on peut avoir une certitude rassurante, il ne sortira jamais. Francisco Arce Montes mourra en prison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.